Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui.
Et vous entendez derrière l'immortel Charles de Gaulle, le non moins immortel Chris Isaac. Et c'est le générique de Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick. Et on va parler de musique de film aujourd'hui, et ô combien, avec des talents, et ô combien de talents.
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Quand la solitude te fait battre des cils, quand la force, l'habitude, tous les bruits de la ville deviennent les échos de ses propres silences. Quand c'est moi, le salaud, et toi, l'indifférente. Dis, ne comprends-tu pas que je n'aime que toi? J'aime quand on se retrouve quand ta cigarette tremble. J'aime quand tu es jalouse des vies sans importance. Oh, j'aime cette douce violence, ces mots d'après minuit.
Incroyable, incroyable cette voix, mais franchement, j'écoute, j'avoue, je vous dis franchement, j'ai pas écouté cette chanson.
Oui, vous la découvrez à l'antenne, André Berkoff.
Et je voudrais savoir, attendez, c'est qui ça? C'est une voix cassée comme ça, c'est qui?
Eh bien, c'est Alain Delon, André Berkoff, effectivement, « Je n'aime que toi ». C'est cette chanson qu'il a révélée cette semaine, lundi exactement, sur YouTube. Elle est sublime, à 83 ans. 46 ans après son inoubliable duo avec Dalida, Parole, Parole.
Paroles. Et... Oui, non, c'est formidable.
Il est bouleversant, André, je l'ai écouté, cette musique qui dure plus de 2 minutes.
On pourrait l'écouter entièrement, on a tellement de choses à dire sur tellement de très belles personnes. Mais je dois dire que c'est vrai, c'est très 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 envoûtant, c'est très fort. Et surtout, il faut dire, Alain Delon, vous savez, il a reçu la palme d'honneur du Festival de Cannes, et Dieu sait s'il l'a mérité, malgré quelques controverses ridicules. Et voilà, Alain Delon, il est toujours là, évidemment, il n'a plus la voix du grand séducteur de plein soleil, de la piscine, du guépard, de Rocco et ses frères, tous ces extraordinaires films, mais il est encore là, il a encore sa voix, il est très 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 beau, je n'aime que toi, c'est formidable, et c'est vraiment formidable. Et d'ailleurs, je crois que Céline, il a quand même, c'est pas la première fois qu'il chante, on avait parlé de Parole, mais il en a eu d'autres.
Il s'est essayé à plusieurs reprises, effectivement, à la chanson, Alain Delon. La première fois, c'était en 1967, avec Laetitia, André Berkoff, sur la BO du film Les Aventuriers de Robert Enrico, ce film extraordinaire. Ensuite, donc, il a fait son célèbre duo donc avec Dalida, puis d'autres duos aussi avec Shirley Bassey et Phyllis Nelson. Il a aussi interprété Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand. Mais effectivement, si aujourd'hui, eh bien, il revient à la chanson avec cette sublime chanson, il ne devrait pas revenir au cinéma. Dans une interview au Monde, il a déclaré récemment « Je ne veux pas faire le combat de trop ».
Oui. C'est quelqu'un, il a toujours été le samouraï. Rappelez-vous de ce merveilleux film de Jean-Pierre Melville. Et puis, il y a eu quelque chose de formidable, c'est qu'il a accordé une interview, effectivement, au journal Jeune Voix, l'Illustré, et il a déclaré qu'il était favorable, vous savez, on en a beaucoup parlé avec Jérôme Lambert, au droit de mourir dans la dignité. Et il dit des choses très, très, très belles, Céline. Il dit, lui, il habite la Suisse, il dit « Exit Suisse, je trouve ça grandiose, il y a un côté très propre, net, tu es dans ta chambre avec les gens que tu veux, avec les amis que tu choisis, ce sont tes derniers moments, mais c'est toi qui décides, personne d'autre. » Il a été très très frappé, parce que l'affaire Vincent Lambert l'a frappé, lui dit « je ne veux pas que d'autres décident pour moi. » Il dit « J'ai déjà organisé avec mes avocats suisses tout ce qui se passera le jour où je vais partir. Je ne veux surtout pas que ce soit la curée. » Et là, allusion évidemment à Johnny Hallyday et à l'héritage de Johnny Hallyday.
Exactement, et je voulais simplement préciser, c'est important de le préciser, Exit Suite, c'est une association qui depuis 2000, effectivement, accompagne les personnes malades ou en fin de vie et qui souhaitent donc mettre fin à leur jour.
Tout à fait, et puis alors voilà, il a parlé évidemment de Romy Schneider, il a parlé de tout, mais ce qui est le plus fort quand même, c'est cette déclaration de la personne qui dit « Moi, je ne veux pas partir n'importe comment, je veux décider comme j'ai décidé de ma vie, je voudrais décider de ma mort. Alain Delon, tel qu'en lui-même.
Et oui, et il faut préciser que le journaliste de l'hebdomadaire dans l'Illustré s'est laissé aller aussi à une autre question délicate. Justement, vous parliez de Romy Schneider. Et il y a demandé si la vie était à refaire, épouseriez-vous Romy, André? Et il a, ce qu'il a répondu,
oui,
vous savez.
Oui, ce n'est pas impossible. Mais même mariée avec moi, elle ne serait plus de ce monde. Romy n'est pas partie par hasard en 1982. Elle est morte parce qu'elle n'a jamais supporté la fin atroce de son fils David.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal.
Extraordinaire chanson, et il en a
et
fait
oui,
l'extraordinaire
Elton John. Nikita, ce tube planétaire, André Bercoff, eh bien, était sorti en pleine guerre froide. Eh bien, actuellement, le chanteur britannique fait une grande tournée d'adieu à travers le monde. Et lors d'un concert donc à Vérone, c'était en Italie, eh bien, il s'en est pris au choix politique de son pays, André.
Oui, alors lui, il a pas sa langue dans sa poche, et lui, alors, il est totalement contre le Brexit. Il a dit, j'en ai marre du Brexit, je suis un Européen, je ne suis pas un idiot d'anglais stupide, colonialiste et impérialiste. Bah, dis donc, on ne savait pas qu'il y avait des Européens, au moins on en connaît un,
c'est Elton John.
Et voilà, et il y va et il continue. Hein, je crois qu'il a fait à plusieurs reprises, il a fait des déclarations.
Oui, dans le Daily Mail, il avait comparé le Brexit à une céréale qu'on mange et qu'on vomit.
Oui, alors vraiment, carrément, image un peu forte quand même. Il disait, je ne crois pas qu'on a dit la vérité au peuple britannique, je ne crois pas qu'il savait exactement ce pourquoi il votait, on lui a promis quelque chose de complètement ridicule, qui n'était pas viable économiquement. Mon cher Elton John, c'est vrai, hein, quand les peuples en majorité ne sont pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui disent que ces peuples ne comprennent rien et qu'il faut les dissoudre. Non, écoutez, il y a eu ça en France, hein, avec le référendum 2005 sur la Constitution européenne. On a voté à 55% contre, et bien on n'en a pas tenu compte. Bon, après, ce sont des opinions, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la majorité, la démocratie, ça joue aussi, même si on trouve ça un peu ridicule, et même si on est un grand chanteur.
Exactement, et ce grand chanteur, eh bien, il s'est aussi montré très critique à l'égard de la Russie récemment, qui a censuré donc des scènes dans Rocketman, vous savez André, le biopic qui retrace actuellement donc son fantastique destin et qui est actuellement donc à l'affiche au cinéma et toujours en salle donc.
Oui, alors il a été censuré évidemment en Russie, il y a eu certaines scènes homosexuelles autres qu'ils ont trouvé un peu.
Oui, des scènes de baiser, d'amour et de sexe.
Voilà, ils ont trouvé très gros, c'est étonnant parce que je pensais que la Russie de Poutine était déjà sortie de là, mais apparemment non, parce que l'entreprise, le film a été modifié pour respecter les lois russes parce que il faut savoir que 2013 en Russie, une loi punit d'une amende ou de prison tout acte de propagande homosexuelle auprès des mineurs. Bon voilà, alors évidemment, Elton John, ça lui a pas du tout plu, et Elton John a l'habitude de parler, ben il parle, il a le droit.
Oui, il a le droit. En tout cas, il faut préciser qu'après Rocketman et Bohemian Rhapsody, vous savez, le biopic qui a été diffusé
sur Freddie Mercury,
voilà,
et Queen,
exactement, ouais. Sur Queen sublime. Eh bien, actuellement, plusieurs films sont actuellement donc en préparation pour redonner vie donc à l'écran à d'autres grandes légendes de la chanson internationale, André, notamment Aretha Franklin et Judy Garland.
Et on va en parler avec Gabriel Yared tout à l'heure.
Exactement, qui est notre invité dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Qui ne se rappelle pas ça, hein? Et même les moins de 20 ans, même tout le monde.
Ce tube planétaire de Michael Jackson qui figure effectivement dans le Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps, André Bercoff, qui s'est écoulé quand même à 66 millions d'exemplaires depuis 1982. Eh bien, figurez-vous que le producteur légendaire de Michael Jackson, à savoir le génial Quincy Jones, eh bien, il va donner un concert-événement à Paris le 27 juin. Il a aujourd'hui 86 ans.
Et oui, c'est un génie de la musique. Il faut savoir que Thriller, il a produit, arrangé et orchestré, et composé d'ailleurs aussi beaucoup, trois des plus grands albums de Michael Jackson. Il faut savoir qu'il a vraiment... Michael Jackson était déjà une star, mais il l'a rendu planétaire, Quincy Jones, parce que Quincy Jones est un des plus grands musiciens de jazz et de musique de tous les temps, il faut le dire. Il a tout fait.
Eh oui, Quincy Jones, c'est 2900 chansons, 50 musiques de films qui lui ont valu donc des centaines de récompenses, donc 27 Grammy. Et puis c'est 410 disques, dont le fameux Thriller de Michael.
Oui, exactement. Et il va donc se produire, comme on sait, le 27 juin prochain,
à l'Arena.
Concert événement à Paris, à l'Arena. Et ça va être énorme parce que Quincy Jones est énorme.
Alors vous l'avez connu, André Berkoff, je crois, grâce à Eddie Barclay.
Oui, absolument. Ben, Eddie Barclay était un ami et j'ai vu plusieurs fois Quincy Jones chez Eddie Barclay, qui est un homme tout à fait charmant, Quincy Jones, Eddie Barclay aussi. Et je dois dire qu'un jour, je me rappelle, c'est quand même, c'était un dîner, j'arrive chez Eddie Barclay à Avenue Fredland, il vient dîner, il y aura des gens, et je vois qui, en même temps, ensemble, Quincy Jones, Michael Jackson et Jack Nicholson.
Wow.
T'es quand même, et je dois dire que, alors j'ai parlé à Quincy Jones à plusieurs reprises, et il m'a dit ce qu'il devait à Eddie Barclay, c'est très intéressant, parce que Quincy Jones arrive à Paris pour étudier la musique avec Nadia Boulanger, vous savez, qui
exactement,
était une grande...
Ouais.
Je dois dire que, bon, il n'avait pas d'argent, il était là, et on lui en dit, va voir Eddie Barclay, il a un orchestre, et Eddie Barclay l'a engagé dans son orchestre, et les 4 ans que Quincy Jones était à Paris, il a vécu grâce à Eddie Barclay, et grâce à son talent, bien sûr.
Oui.
Donc il était totalement redevable à Eddie Barclay.
Oui, il le considérait vraiment comme son frère, et Eddie a été un peu l'un de ses mentors pendant près de 50 ans, et il l'a même engagé, c'était en 1958, chez Barclay, en
Mais
tant qu'arrangeur et directeur
c'est
artistique.
Ce que je vous dis.
C'est ça,
c'est ça.
C'était en
58. Il l'engage et voilà, et il reste quelques années là, en tout temps travaillant avec Nadia Boulanger.
Exactement. En tout cas, actuellement sur Netflix, il y a un documentaire exceptionnel sur Quincy Jones. Je vous conseille de le regarder. Ce documentaire donc raconte comment cet enfant du ghetto, André Berkoff, de Chicago, est devenu le plus grand producteur de tous les temps. Et dans ce documentaire, eh bien, il avoue qu'un jour, voilà, il raconte qu'il a trouvé un piano et que ce piano lui a vraiment sauvé la vie. Sans cela, j'aurais pu finir en prison ou mort.
Oui, et il la raconte formidablement, parce qu'il a donné une interview il n'y avait pas longtemps aux Parisiens, et il a dit ceci, c'est une histoire magnifique, effectivement, j'ai grandi à Chicago dans les années 30 pendant la Grande Dépression, et j'ai vécu au milieu du plus grand ghetto noir d'Amérique. Enfant, je n'ai vu que des mitraillettes et des cigares. Et oui, c'était le Chicago, quand même, post-Al Capone et compagnie. Et puis, mon père nous a fait déménager à Bremerton, dans l'état de Washington, puis dans la banlieue de Seattle, c'est la côte ouest. Hein. Et il dit, à 11 ans, je cambriole une armurerie avec mon frère et des amis. Quand j'ai vu dans un coin, un petit piano, une voix, j'aime croire que c'est celle de Dieu, m'a dit « retourne dans cette pièce ». Il est rentré dans cette pièce et il dit « dès que j'ai touché ce piano, chaque cellule de mon corps a dit « c'est ce que tu dois faire pour le reste de ta vie ». Jusque-là, je rêvais vraiment d'être gangster. Et bien, tout a changé avec une note de piano. C'est magnifique, Céline.
Oui, extraordinaire. En tout cas, ce concert de Quincy Jones, je rappelle qu'il aura lieu donc à l'Accor Arena de Paris le 27 juin. Un événement à ne pas rater. Alors, si ça vous tente, sachez qu'il reste encore des places, en tout cas.
Oui. Alors, moi, je voudrais continuer quand même avec Quincy Jones, parce que c'est formidable. Il parle de Michel Legrand, il parle de Frank Sinatra. Vous savez avec qui il a travaillé ? Il a travaillé avec Ray Charles, il a travaillé avec Sarah Vaughan, il a travaillé avec Frank Sinatra, il a travaillé avec tous ces gens-là, et c'est extraordinaire. Et il raconte aussi ça. Vous savez que c'était encore la ségrégation raciale aux États-Unis. Et donc, il arrive avec Sinatra à Las Vegas, avec Count Basie et tout ça. Et bien, les Afro-Américains, Harry Belafonte, tout ça, n'avaient pas le droit de se produire à l'intérieur. Ils jouaient dans la périphérie de Las Vegas. Et bien, avec Frank Sinatra, il le raconte, c'est extraordinaire parce que Frank Sinatra a dit « il est hors de question que je chante » et Sinatra était la méga star du moment. S'il n'y a pas mes amis, Quincy Jones, il n'y a pas Count Basie, il n'y a pas Sammy Davis Jr., etc. Il a cassé, si vous voulez, l'apartheid, un certain apartheid qui régnait à ce moment-là. Et ça, Quincy Jones ne l'a jamais oublié.
Exactement, André Berkoff. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec l'un des plus grands compositeurs de musique de film, Gabriel Yared, donc, qui a été notamment oscarisé pour Le Patient anglais. Alors, à l'occasion de ses 40 ans de carrière, il va nous raconter son grand roman d'amour de musicien avec le cinéma mondial. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui.
Voilà, baby did a bad, bad thing. Et le baby, là, c'est évidemment Charles de Gaulle et sa culture. Accompagné par Chris Isaac, le générique du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Et il fallait qu'on fasse ça pour parler d'un grand musicien qui compose des musiques de très grands films.
Et oui, et ce grand compositeur de musique de film, eh bien, c'est Gabriel Yared qui nous fait l'honneur aujourd'hui, André Berkov, eh bien, de venir se raconter sur Sud Radio. Eh bien, Gabriel Yared, André, en 40 ans, il a composé plus de 100 musiques de films, notamment celles de Camille Claudel, 37 de le matin, Tati Daniel, La Lune dans le caniveau, Juste la fin du monde, Le talentueux Monsieur Ripley. Et il a surtout signé celle de L'Amant, pour laquelle il a reçu un César, c'était en 1993. Et celle du patient anglais qui lui a valu un Oscar, un Golden Globe et un Grammy Award, c'était en 1997.
Oui, un medley de Gabriel Yared. On a entendu la musique, évidemment, on pourrait l'entendre pendant des heures. Il y a des extraits du patient anglais, de L'Amant, de 37 de le matin et de Camille Claudel. Et alors, vous avez déclaré, Gabriel Yared, bonjour.
Bonjour.
Dans une interview, vous avez dit « Rien ne me préparait à devenir un compositeur de musique pour film ». Alors, d'abord, avant de savoir que vous avez composé la musique de film, c'est venu comment? D'abord, l'amour de la musique et l'envie de faire de la musique. Ça vous est venu comment? Quand?
Écoutez, je crois que je suis né avec ça. Je suis reconnaissant, en tous les cas, à cette grâce qui m'a donné un don dans un environnement où il n'y avait absolument aucun artiste, personne qui s'intéressait à la musique dans ma famille.
Ah oui, ils étaient ni musiciens,
non, ni musiciens, ni vraiment mélomanes. Mes parents aimaient bien les chansons du festival de Sanremo à l'époque. Mon père me sifflait des java quand je jouais de l'accordéon. Mais en dehors de ça, il ne s'intéressait pas vraiment à la musique. Et moi, je sais que, pour autant que je me souvienne, parce que j'ai un grand trou dans ma vie, à partir de l'âge de 0 jusqu'à 8 ans probablement, parce que j'étais pensionnaire très très jeune chez les jésuites.
D'accord, à
l'âge de 4 ans, donc je ne me souviens pas. Mais je sais que mes premiers souvenirs remontent toujours à des souvenirs musicaux.
Ah ouais.
Au pensionnat, le samedi... on avait le surveillant général qui nous couchait, donc on devait se coucher, et puis au moment de dormir, il mettait toujours le même disque, c'était la Rhapsodie numéro 6 de Franz Liszt.
D'accord.
Rhapsodie hongroise numéro 6 de Franz Liszt. Et moi j'écoutais ça et j'étais tellement pénétré que j'arrivais pas à en dormir après. Ça c'est mes premiers souvenirs. Et une sorte de faim, de soif, mais insatiable de musique, mais encore une fois dans un environnement qui m'a pas beaucoup aidé. Ouais. Et c'est peut-être grâce à cette opposition qu'il y avait de la part de mes parents et de la part aussi des pères jésuites que probablement je me suis renforcé.
Est-ce que j'imagine parce que on connaît Liban, moi je suis né à Beyrouth, enfin
oui.
Que vous on se connaît de ce point de vue-là. Est-ce que parce que moi quand je voulais être journaliste mes parents me disaient c'est pas un métier. Est-ce que vos parents vous disaient
absolument.
Musicien c'est pas un métier?
Absolument, j'étais obligé de faire 2 années de droit.
Ah ouais.
Voilà. J'ai fait 2 années de droit parce que dans la rue Uvelin il y avait juste en face une petite porte qui donnait sur la cour de la cathédrale de l'université Saint-Joseph.
Ouais.
Et j'avais les clés pour aller jouer de l'orgue.
Incroyable.
Donc j'ai suivi mes études de droit à la tribune d'orgue de l'Université Saint-Joseph.
Mais en fait, vous êtes un autodidacte, c'est ça ?
Je suis, oui, vraiment un autodidacte.
Incroyable.
Et je dois dire que, vous savez, on dit toujours j'ai découvert, mais découvrir, c'est enlever le couvercle de quelque chose qui est déjà en soi. Et je crois que toutes les musiques que j'ai découvertes et tout cet attrait, cette passion dévorante pour la musique étaient déjà en moi. Alors, il y avait deux chemins possibles. Soit je continue à être un autodidacte avec une oreille impeccable, soit vraiment je prenais les moyens qu'il fallait pour avancer musicalement. Et les seuls moyens disponibles pour moi, c'était la lecture. Pouvoir lire de la musique aussi bien que
déchiffrer les notes. Enfin,
déchiffrer.
Oui, mais déchiffrer, d'accord. Mais vous aviez quand même des notions de solfège. Alors.
J'avais une demi-heure par semaine à Jamour, chez les Jésuites, avec un professeur qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Bertrand Robillard, et qui avait dit à l'âge de 14 ans à mon père, on ne fera jamais rien de lui. Donc je pouvais pas attendre vraiment de soutien de personne. Donc si vous voulez, le déchiffrage, la lecture d'une partition de musique est devenu pour moi comme lire un livre. Et c'est ça qui m'a vraiment ouvert, c'est dévorer des partitions, tout en sachant que je n'allais pas devenir un pianiste virtuose. Donc je déchiffrais ce que j'avais envie d'entendre et ce que j'avais envie d'apprendre dans chaque musique.
Mais est-ce que dès le départ, à ce moment-là, Gabriel et Yared, est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit, il n'y a que ça pour moi ? Est-ce qu'il n'y a pas l'alternative ? Il y a ça, je veux
faire
ça, je veux faire ça.
Il n'y avait que ça, et il n'y aura que ça toute ma vie. Et je dis toujours, on me dit, qu'est-ce que c'est la musique ? Je dis, c'est une respiration, on ne peut pas s'arrêter de respirer. Mais j'ai été obligé de céder à mon père, qui était un orateur extraordinaire, d'ailleurs, très convaincant, qui m'a dit, mais fais de la musique, mais faisant en amateur. Alors j'ai accepté de faire 2 années de droit, pendant lesquelles donc j'ai appris tout ce qu'on peut imaginer du répertoire de la musique pour orgue, de Bach à Buxtehude, à Messiaen,
etc. Oui, parce que vous partiez par la petite porte.
Par la petite porte, j'avais la clé de la petite porte. Voilà. Et après ça, après les 2 années, je voyais bien que je ne voulais pas vraiment m'enterrer au Liban, et j'ai eu de la chance de rencontrer l'organisateur du festival de la chanson du Maracanã, Zinho, à
Rio de Janeiro, au Brésil, oui.
Qui était marié à une Libanaise qui s'appelle Leila Khalidi. Et il m'a dit, tu viens au concours.
Brésil, oui.
Je lui ai dit, mais je ne sais pas faire des chansons. Il m'a dit, mais si, tu composeras une mélodie. Je lui ai dit, je ne sais pas écrire de texte, on trouvera. Je ne sais pas chanter, on trouvera l'interprète. Et je suis parti au Brésil pour rester 15 jours. Et ça m'a tellement plu que je suis resté 2 ans.
Incroyable.
2 ans, et après vous êtes revenu, vous êtes dit je vais revenir au Liban, mais vous êtes arrêté à Paris.
Je me suis arrêté à Paris, et depuis je suis resté à Paris. Donc en dehors, je suis en France depuis très très longtemps, en dehors de 8 années où j'ai résidé à Londres, j'ai résidé à Londres.
Et donc avant de devenir un grand compositeur donc, de musique de film, vous avez été notamment orchestrateur et producteur de grands noms de la variété française, comme Charles Aznavour, Sylvie Vartan, François Zardy et Johnny Hallyday.
Et Beko,
pour rappeler, et Beko aussi. Quel souvenir vous regardez de cette période-là de vos vies ?
Écoutez, c'est un pur hasard si j'ai commencé à faire de l'orchestration, parce que je n'avais pas appris l'orchestration. Mais quand je suis revenu en France, à Paris, après le Brésil, j'ai fait la connaissance de 2 frères qui s'appellent les frères Costa, Michel et Georges Costa, qui sont d'origine...
Ici à Paris.
Oui, qui sont d'origine marocaine. Et nous avons mis en commun 12 chansons, et on a été voir CBS à l'époque, rue Fraissinet, on leur a dit, est-ce que ça vous intéresserait qu'on enregistre ça en anglais ? On a eu un oui, avec un tout petit budget, et il fallait bien que quelqu'un écrive les orchestrations. C'est moi qui les ai écrites au pif, c'est-à-dire vraiment au toupet, je ne sais pas comment je l'ai fait. Et on a enregistré ça à Paris, au studio d'Avou. Tous les musiciens qui étaient convoqués ont commencé à parler entre eux et à dire dans tout le milieu, il y a un nouvel orchestrateur qui a l'air très bien à Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la première chanson que j'ai orchestrée vraiment pour les vedettes, disons. C'était le seul duo entre Johnny Hallyday et Sylvie Vartan qui s'appelle « J'ai un problème
». Ah oui,
voilà. le fameux
«
J'ai un problème ».
Voilà, c'est
je
celui
sais
que
bien
je t'aime.
Que je t'aime.
Voilà, les paroles, c'est pas celui que je t'aime. Enfin. Et donc, de là, j'ai commencé à me retrouver orchestrateur pour plein de gens différents, de Henri Comasias à Mireille Mathieu, à Georgette Lemaire, à Jonas, à tout le monde. Et j'ai travaillé pendant 5 ans comme ça, mais pendant ces 5 années, tout ce que j'ai gagné, je l'ai investi en achat de partitions d'orchestre pour apprendre à orchestrer, depuis Mozart jusqu'à Ligeti. Et j'ai passé mon temps à... Donc je rends grâce à tous les chanteurs qui m'ont permis, moi, d'étoffer ma culture musicale.
Apprendre les partitions.
Apprendre à lire comment c'est orchestré, à essayer d'entendre. Oui. Et vraiment, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'arrête. J'ai pris à ce moment-là 2 années sabbatiques. J'ai dit, j'arrête tout ça. Et j'ai pris des cours de contrepoint et de fugue avec un professeur du Conservatoire de Paris à la retraite, qui s'appelle Julien Falck. Mais pendant ces deux années, j'ai consolidé le métier que je m'étais fait uniquement à l'oreille.
Et donc après, effectivement, cette expérience avec, dans le milieu de la variété française, qu'est-ce qui fait que vous devenez compositeur de musique de film? Il y a une rencontre dans votre vie qui a été
passée chez Godard.
J'ai un bienfaiteur, oui. Il faut que je le cite toujours.
Et oui.
Comme j'étais très ami avec Françoise.
Hardy.
Jacques Dutronc était au courant de tout ce que je faisais pour elle et ça lui plaisait apparemment beaucoup. Et un jour, Jacques a parlé de moi à un monsieur dont je ne connaissais pas l'œuvre qui s'appelle Jean-Luc Godard. Parce que j'ai oublié de vous dire que pendant toutes ces périodes où j'étais, où ce soit à Beyrouth ou au Brésil ou n'importe où ailleurs, je n'ai pratiquement presque pas été au cinéma. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, Dutronc me dit, Marine Karmitz à l'époque va t'appeler. On était en 79.
D'accord.
Et j'ai rencontré Godard dans un bistrot de Saint-Cloud. J'ai vu cet homme, très étrange. Alors, il m'a parlé de son film.
C'était « Sauf qui peut la vie ».
Exactement.
Oui. Et je lui ai demandé si je pouvais voir des images. Il m'a dit « Non, c'est pas nécessaire, je vais vous raconter ». Et puis, on en est resté là. Il voulait que je fasse des orchestrations sur une musique de Ponchielli. Ponchielli, c'est un contemporain de Verdi. Mm-hmm. Et je lui ai dit « Vous savez, ça m'intéresse pas de faire des orchestrations, je viens d'en sortir. Ce qui m'intéresse, c'est de composer ». Il m'a dit « Alors, vous allez composer, mais composer de manière à ce qu'il y ait une citation de Ponchielli à la fin ». Et d'accord. C'est comme ça que j'ai commencé dans la musique de film. Et à l'époque, je n'avais pas de musicien, c'était juste un programmeur de synthé et moi au piano. Et Godard est venu pendant toutes les séances, il disait rien, il était assis, il a pris les bandes, et je sais qu'il a monté ses images sur la musique.
Formidable.
Et c'était mon premier film avec Jean-Luc Godard.
Il y a 40 ans.
Incroyable.
Oui, 40 ans, exactement.
Après Jean-Luc Godard, vous collaborez avec Christian Challonge et surtout avec Jean-Jacques Benex, qui était tombé amoureux de votre musique. En vous écoutant à la télévision, c'était le 26 février 1981.
Vous avez la date.
Dans le grand échiquier de Jacques Chancel, c'est ça.
C'était donc le grand échiquier de Jacques Dutronc.
Ouais. De Jacques Dutronc.
Encore lui, mon bienfaiteur. Voilà. Et donc, j'étais invité pour jouer la musique de Sauf qui peut la vie et de Malville. Et comme elle était écrite que pour des synthés, j'ai réorchestré tout et j'ai joué. Et derrière, de l'autre côté de l'écran, se tenait Jean-Jacques Benex, qui m'a appelé à la suite de ce qu'il a entendu. Et on a fait ensemble un film qui a été très controversé.
À tort,
parce que c'était un film opéra, une tentative d'aller vers l'opéra. Et j'ai travaillé avec lui et je lui ai dit, vous savez, moi je préfère travailler avant les images. Il m'a dit, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que j'ai besoin de musique pour le tournage à Cinecittà avec Nastassia Kinski et Gérard Depardieu. Donc j'ai écrit la majorité des thèmes et toutes les musiques avant le tournage. Et après, je les ai évidemment retravaillées, ciselées sur les images.
Gabriel Yared, vous continuerez donc de nous raconter votre roman d'amour de musicien avec le cinéma mondial. Tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui.
Et oui, sine qua non, et aujourd'hui on continue avec Céline Alonso, nous recevons Gabriel Yared, un très grand compositeur avec de très très grands films et oscarisés, césarisés, mais surtout l'art, d'abord, l'art.
Et oui, Gabriel Yared, André Berkoff, eh bien, c'est le patient anglais, c'est 37-2 le matin, c'est Tati Daniel, c'est l'amant, c'est Camille Claudel, juste la fin du monde, le talentueux Monsieur Ripley, Azur et Asma. Toutes les musiques de ces films, eh bien, effectivement, ont été signées par ce très grand compositeur. Écoutons tout de suite un medley de ses plus belles compositions.
Du monde, ça. Formidable, Gabriel Yared, quand même. On a écouté deux medleys, le premier, et là on en écoute un autre, et c'est vrai que c'est la variété formidable, c'est-à-dire que vous avez vraiment une espèce de palette, ça. C'est-à-dire il y a la musique un peu classique, etc., et puis vous rompez ça, puis vous faites presque du musical à un moment donné.
Oui, parce que le cinéma demande ça, oui.
C'est ça, et alors, je voudrais revenir, on en a parlé dans la première partie de l'émission, c'est au fond... et Godard et Benex, vous dites, il n'y a pas à regarder les images, de toute façon on n'a pas encore tourné, faites la musique, je vais vous raconter de quoi il s'agit, faites la musique. Comment ça vous inspire, comment vous travaillez pour dire, ah oui, il m'a raconté l'histoire, et bien cette histoire, ça me donne, comment ça vous donne telle orchestration, telle musique, peut-être, telle mélodie?
Peut-être pas telle orchestration, mais déjà telle recherche thématique. C'est-à-dire que mon problème, c'est pas mon problème, je veux dire que je me suis rendu compte que les images, d'une certaine manière, muselent mon imagination. C'est-à-dire que ce qui compte d'abord pour un compositeur, ce sont les images intérieures, celles que lui se fait. Et plus la donnée est encore nébuleuse, moins elle est précise autant que le sont les images, et plus votre imagination est harponnée, d'une certaine manière.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et d'accord. C'est une approche que j'ai eue, ça a commencé avec Godard par hasard, moi je ne pensais pas en faire une. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte, en regardant les collaborations de Rota avec Fellini ou de Morricone avec Léon, qu'eux aussi pratiquaient ça.
Ah oui, moi, sans les images.
Mais oui, moi je ne le savais pas. Pas du tout. Et je me dis que c'est naturellement l'approche d'un compositeur. C'est-à-dire, vous me donnez un sujet, je lis le scénario, vous êtes le réalisateur, je parle avec vous longtemps, qu'est-ce que vous attendez de la musique? On vous dit toujours c'est un personnage, mais qu'est-ce qu'il dit ce personnage?
Vous dialoguez avec le réalisateur.
La réalisatrice, toujours je dialogue. Et je commence déjà à faire un travail de défrichage. C'est-à-dire, ce sont des perceptions. Je commence à noter. Je fais un travail de vrai compositeur qui recherche, qui creuse. J'ai comme un panel de possibilités que j'ai exploitées. Il m'est arrivé une fois ou deux de me tromper.
Oui, bien sûr.
Et ce sont les images à ce moment-là qui montent d'une certaine manière dictées.
Voilà. C'est-à-dire, vous ciselez votre musique après en fonction du montage, de la lumière, des comédiens.
Absolument.
Ouais, c'est ça.
Absolument. Et il y a une subordination à l'action, au dialogue, au film. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que pour autant la musique doit perdre ses prérogatives absolues d'être une musique.
Oui.
C'est-à-dire d'exister
par elle-même.
Par elle-même, exactement.
Alors, vous discutez beaucoup avec le réalisateur, effectivement, pour vous inspirer, mais vous rencontrez les comédiens aussi,
Très souvent, sur la Lune
dans Caniveau. Vous discutez aussi avec les comédiens.
Sur la Lune dans Caniveau, j'avais été sur le tournage, il m'est arrivé très souvent, sur 37.2, j'étais tout le temps sur le tournage, et j'ai rencontré les comédiens avant que le film ne commence, puisque Béatrice Dalle et Jean Ganglade devaient jouer au piano chacun ce que j'avais écrit.
Ouais.
Et c'est grâce à eux que j'ai écrit cette musique-là. Aujourd'hui, on travaille presque collé à l'image. Moi, je pense qu'il faut travailler avec le souvenir de l'image, c'est-à-dire la connaître, la voir, et puis l'oublier, et travailler avec ce souvenir, comme travaillaient autrefois des gens comme Bernard Herrmann avec Hitchcock, ou Alfred Newman. Ils n'avaient pas d'ordinateur chez eux.
Ils allaient
en salle de montage, ils regardaient le film, il y avait un monteur qui leur donnait les minutages, et ils rentraient chez eux et ils travaillaient avec le souvenir de l'image. Mm-hmm. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. La musique, à ce moment-là, prend un sens. Elle est parallèle au film, mais elle l'épouse en même temps, étrangement.
Et vous jouez de quel instrument, à propos?
Je joue du piano, et puis il y a 5 années, j'ai pris des cours de violoncelle et de clarinette simultanément, et j'ai fini par écrire des duos pour chaque instrument. Pour chaque groupe d'instruments. Je l'ai fait juste pour pouvoir écrire des duos qui sont maintenant édités. Mais je joue principalement des claviers, un peu de guitare.
Alors Gabriel Yared, vous avez écrit vos plus belles musiques pour Anthony Minghella, notamment celle du Patient anglais, pour laquelle donc vous avez reçu un Oscar en 1997.
Juste un mot, c'est tellement
quel
beau, c'est
vrai,
et on peut écouter ça, voilà. Il n'y a pas besoin des images, non, je veux dire, c'est très bien.
Oui, ça peut provoquer de nouvelles images pour un auditoire.
Absolument, chacun projette ce qu'il a envie de projeter.
Et oui, si vous écoutez une symphonie de Beethoven ou Mahler, etc., vous vous faites vos propres images.
Bien sûr.
Et c'est aussi le but de la musique, donc d'épouser le film, mais et aussi de rester en tant que musique.
Alors, vous avez travaillé, on peut dire, avec les plus grands réalisateurs. Qu'est-ce que Anthony Minghella avait de plus? Je sais qu'il a été l'une de vos plus belles collaborations.
Non, et surtout, c'est nous l'avez dit, après sa mort il y a 11 ans, vous avez voulu, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, arrêter un peu de composer pour le cinéma,
Pourquoi? Parce que Parce que pour moi, ce sont des mariages, des vrais mariages, ça prend du temps, le temps de se fiancer, de fréquenter, ouais. de se marier. Et j'avais eu une telle union, une osmose vraiment avec Anthony Minghella. D'abord parce qu'il comprenait très bien la musique, il était musicien lui-même, il commençait sa journée en jouant comme moi un prélude ou une fugue de Bach.
De Bach, ouais.
On était vraiment fait pour s'entendre. Et nous avons fait ensemble 4 films et aucune musique n'a jamais été pareille d'un film à l'autre. Chaque fois, il m'obligeait à me renouveler. Et moi, je ne vis que pour ça, à me renouveler aussi. Et donc, avec lui, je crois que j'ai appris encore à être un meilleur compositeur pour le cinéma. Parce qu'il me disait, je sais que tu ne prêtes pas beaucoup attention, mais viens, on va parler de l'image ensemble. L'image était là, parce que la musique du patient anglais, la thématique était faite avant le tournage.
D'accord.
Les grands thèmes qu'on vient d'entendre. Ouais, ouais. Mais c'est lui qui m'a permis de mieux comprendre le processus de l'image, parce que j'ai participé à toute la préparation. Et on passait beaucoup de temps ensemble, et je crois que il m'a rendu meilleur, finalement. Il m'a rendu meilleur, et il m'a permis d'exprimer des musiques qui sont en moi, et que je ne renie pas.
Et oui, il est mort il y a 11 ans, et effectivement, vous avez eu à cette époque une envie d'arrêter, de travailler, de composer pour le cinéma, mais en fait, vous avez persévéré, vous avez notamment collaboré avec Xavier Dolan.
Oui, c'est marrant, d'un mariage à un autre, oui. C'est très différent avec Xavier, c'est très très différent. En fait, le premier film que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Tom à la ferme, je ne l'ai pas rencontré. Tout s'est passé au téléphone. Mm-hmm. C'est lui qui m'a écrit une très belle lettre où il me disait qu'il avait envie de travailler avec moi. Et je lui dis, mais j'espère que vous viendrez pour les enregistrements. Il me dit, mais je ne peux pas, je travaille sur autre chose. Je crois qu'il faisait un doublage pour un film américain. Et j'ai enregistré cette musique sans lui. Et après coup, il m'a dit que vraiment, il était très très heureux de notre collaboration. Et on s'est rencontrés pour la première fois à Cannes, un an avant juste la fin du monde. Mm-hmm. Et je lui ai exprimé mon désir de travailler aussi en amont. Pas forcément toujours avant l'image, mais en amont du tournage. J'ai commencé à écrire des thématiques pour lui avant le tournage.
Juste un mot rapide avant de parler de la biopic de Julie Garland. L'amant, ça a été aussi composé avant l'image ?
Oui, c'est-à-dire, Jean-Jacques Hano est venu me voir, m'a apporté beaucoup de documentation sur la musique vietnamienne et la musique occidentale au Vietnam. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu attends d'un thème, de ce thème-là ? Et il m'a dit, je ne sais pas comment t'exprimer, voilà, c'est un très beau Chinois de 32 ans, dont une fille de 15 ans tombe amoureuse, c'est très charnel, mais c'est une histoire très simple, un peu comme un arpège en musique. Et il est parti au Vietnam tourner, en Indochine.
Ouais.
Et pendant son absence, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il m'avait dit. Et le mot arpège m'est resté dans la tête. Et j'ai commencé à jouer des arpèges, et puis je me suis dit, ça se passe au Vietnam, donc la gamme est différente, ce n'est pas ce qu'on peut appeler.
Voilà. Bah,
j'ai fait tin, dan, 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 ti. C'est un arpège. J'ai trouvé la mélodie et je l'ai harmonisé. Et quand il est rentré d'Indochine, il était en train de monter, donc avec Noël Boisson, il est venu me voir, je lui ai dit je vais te jouer le thème, je l'ai joué, il m'a dit c'est tout à fait le film. Je n'avais pas encore vu les images. Et il a essayé ce thème un peu partout dans le film, ça marche.
Ça s'appelle de l'alchimie et c'est une alchimie renouvelée.
Oui,
ça.
Une réflexion de part et d'autre, il y a alchimie.
Eh ouais, c'est ça qui est formidable.
Alors un mot sur le prochain film, effectivement, dont vous avez signé la musique et qui sortira donc en septembre à New York. La sortie en France sera quelques mois après. C'est un biopic sur Judy Garland.
La fin de Judy Garland.
Incroyable.
Oui, avec René Zellweger, oui.
Ah oui.
Écoutez, c'est un biopic sur les dernières années.
Oui.
Parce que elle ne gagnait plus sa vie, elle était vraiment dans la panade à Los Angeles, elle voulait récupérer ses enfants, le mari ne voulait pas, elle traînait de bar en bar en fait. Et Londres lui a fait une proposition, elle a accepté, et elle a commencé à donner des concerts, elle était très très attendue à Londres.
Mm-hmm.
Et finalement, comme elle était addicte, malgré elle, puisque ça a commencé à l'âge de 8 ans, à l'amphétamine, et au calmant, etc., et à la boisson, ça a fini en désastre.
D'accord, oui. Ok.
En tout cas, on l'attend ce film pour septembre.
Oui, exactement. Alors bientôt, vous produirez au Liban, Gabriel Yared. Le 21 juin, vous donnerez un concert dans la cathédrale Saint-Joseph de Beyrouth. Et le 18 juillet, donc, vous ferez l'ouverture du festival de Betedine par un concert de musique de film et de ballet et par 13 chansons composées et arrangées par vous-même et chantées par Yasmina Jumblat.
Qui a écrit le texte aussi.
Qui a écrit le texte. Alors aujourd'hui, quel est votre rapport avec votre pays natal ?
Écoutez, en vieillissant, de plus en plus proche, en vieillissant, je le détestais au début, mais maintenant ça va de mieux en mieux.
Eh bien, tant mieux, tant mieux. Mais je crois que ce qui est formidable, c'est qu'on va toujours écouter L'Alchimie de Gabriel Yared. Et on attend les prochains films.
Merci Gabriel Yared d'être venu donc vous raconter sur Sud Radio. André Bercoff, on vous retrouve lundi dès midi sur Sud Radio. D'ici là, vous pouvez réécouter le podcast de cette émission sur sudradio.fr. Sinon, visionnez la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio ou sur YouTube. Et tout de suite, donc, c'est Jacques Pessis pour Les Clés d'une Vie. Aujourd'hui, il reçoit Marcel Amont.